Marin absent, lu par Guilhem Lanternier. Extrait de Les Présents d'Antonin Crène, édité chez Publi.net, collection Temps Réel. Épisode 3. Théo ne sait pas ce qu'il espère trouver dans ce village breton. Son père est venu ici lorsqu'il avait 20 ans, il en est certain, car il reconnaît le décor d'une photo de lui qu'il connaît par cœur. C'est aussi le village où ses ancêtres ont vécu. Sur l'acte de naissance de son grand-père, il découvre l'expression « marin absent », mais il ne sait pas de quelle histoire ces mots sont les témoins. Ils agissent sur lui comme une formule magique, une autorisation à imaginer. Alors, il invente. Histoire d'Yves ou d'Erwan. Yves avait 30 ans. Théo ne peut pas imaginer son arrière-grand-père comme un vieillard, car le papier de la mairie a fixé son existence sous la forme d'un jeune homme. Il avait 30 ans, donc, mais il faisait un peu moins, afin de ressembler d'encore plus près à Théo. Mieux que cela, il était Théo, 80 ans plus tôt. Il était donc infiniment plus jeune que lui. Ou bien, il était de l'âge de Théo, mais ce genre de garçon qui ne vieillissait pas, qui gardait quelque chose d'enfantin dans le sourire, une lumière accrochant le regard. Un éclat inspirant l'idée même de jeunesse, qui dissuadait quiconque de s'attarder sur les détails, les plis commençant à marquer la peau, les premières pointes de cheveux blancs dans la tignasse brune. Sa peau se mouchetait même, en été, de taches de rousseur. Il vivait près du village, dans un écart au nom chantant, et était doué pour pas mal de petits boulots. Il n'était cependant pas bon pour rester en place. Le plus souvent, il travaillait avec un copain, Henri, qui possédait un bateau arrimé au petit port de l'île de Sieck, l'île qu'on voit face à l'hôtel des Bains. À marée basse, on peut la rallier depuis la plage, avec des bottes. Les pêcheurs portent toujours des bottes. Ça ne leur pose donc aucun problème. Pour Théo, en revanche, c'est différent. Avec ses baskets, il ne s'y risquerait pas. Il s'enliserait, il arriverait dans un état. Et comme c'est lui qui invente cette histoire, il est normal qu'il la mêle à des réflexions personnelles. Par exemple, il se demande si le prénom d'Yves, déclaré à l'état civil, était une ruse fomentée par des parents qui, en réalité, parlaient breton. Il se demande si, à la maison, la famille d'Yves l'appelait véritablement Yves ou bien Erwan. Le détail est important pour se figurer les personnages de l'histoire, savoir dans quelle langue ils s'exprimaient et par quel prénom ils étaient connus de ceux qui les aimaient. Théo a envie de croire que son aïeul répondait à celui d'Erwan. L'idée donne une couleur d'intrigue au récit. Une identité complexe, une ambivalence, un double fond. Erwan, appelons-le Erwan. Les matins, Erwan s'éveillait très tôt. Il laissait dormir un peu Marie. Marie ne lui donnait-il pas plutôt ce prénom Maria, qui se lèverait juste après son départ. Il pédalait jusqu'à Carbrat, puis sur la passerelle qui enjambait l'estuaire de l'Orne. Dans la forêt, nuit noire. Erwan avait des yeux de chat et surtout l'habitude de cette route. Son vélo laissé devant la plage, il traversait l'étroite langue de sable vaseux qui la séparait de l'île. Ou bien, si c'était marée haute, il passait de l'autre côté avec la barque d'Henri, qui l'avait attendu exprès. Il s'absentait pour la journée, il pêchait la sardine dans la baie et revenait le soir. Les poissons débarqués sur l'île étaient aussitôt mis en conserve. L'opération était assurée en circuit court, comme on le dirait aujourd'hui. Cette idée plaît à Théo, car elle lui semble pleine de bon sens comparée à ses absurdes expéditions de Terre-Neuve consistant à nourrir des Européens avec des morues attrapées au bout du monde. Et à quel prix? Le prix humain s'entend. Le cabotage d'Erwan et d'Henri n'était pas de tout repos non plus, mais il était plus raisonnable, tant sur le plan de l'exploitation des fonds marins que de celle de l'homme par l'homme. La tâche était fatigante, risquée, il fallait pouvoir compter sur un bon copain. Erwan en était un pour Henri, mais il n'était pas fiable sur la durée. Il ne voulait pas promettre qu'il continuerait ainsi. Il disait « je te donne un coup de main, ça me plaît », sans se projeter dans l'avenir. Henri redoutait alors qu'il fît là du jour au lendemain. Sur le duo planait une sorte d'insécurité. Une aventure qui guettait au coin du bois, pensait plutôt Erwan. Pour lui, la pêche n'était qu'une activité possible parmi cent autres. 15 ans plus tôt, Il avait été embauché comme homme à tout faire, alors qu'il n'était même pas encore un homme, au restaurant de l'Hôtel des Bains. Il épluchait les légumes cultivés à Cléder et Sibiril, acheminés par le train patate jusqu'au marché de Saint-Paul-de-Léon. On élaborait les menus à base de produits locaux et de saison. Puisque c'est toujours Théo qui raconte, il ponctue cette histoire de détails qui la rendent sympathique. Un camarade d'arrière-cuisine, Aristide, voulait poursuivre une carrière gastronomique. Il exerçait donc sa mission avec plus de cœur qu'Erwan. Il progressa vite, puis s'employa dans divers établissements du coin afin de préciser son goût. Son goût, en fait, était surtout de changer d'endroit sans arrêt, car il éprouvait les pires tourments à supporter le pouvoir de ses patrons. Il valait mieux qu'il les quittât vite, avant de faire des bêtises. À Morlaix, il rencontra une petite qui avait des attaches dans la Somme ou dans l'Oise. Ils s'aimèrent, ils se mirent à la colle et, quand il fallut changer de boulot à nouveau, ils partirent là-bas. Pour Aristide, toute modification de son décor était un exotisme. Il s'accommodait de n'importe quoi pourvu que la situation ne durât pas trop. La jeune fille trouva une bonne place dans une usine de chaussures, loin des produits chimiques, des solvants et des vapeurs plastiques. Elle tenait les livres de compte bien au chaud dans un petit bureau avec vue. C'était agréable et pas trop crevant, et elle avait de bonnes raisons de croire que ça s'améliorait encore, grâce aux copains du syndicat dans lequel elle plaçait beaucoup d'espoir et d'énergie. Elle voulait s'enraciner. Elle ne déménagerait plus. Aristide confiait ses envies de bougeotte. Le bateau dont parlait Erwan lui donnait des idées. Mais à lui, il aurait fallu un plus gros bateau, avec beaucoup de monde à bord. Le type d'embarcation qui réclame un cuisinier pour nourrir ses hommes. La suite arriva tout naturellement. L'automne qui précédait 1936, Erwan reçut une carte postale d'Abbeville. Aristide expliquait qu'il rejoignait l'équipage du commandant Charcot sur un trois-mâts qui s'appelait le Pourquoi pas, sur le point de quitter Saint-Malo pour le pôle Nord. Il avait écrit la carte dans le train de nuit, l'avait mise dans la boîte sur le port. Il se trouvait déjà au large lorsqu'Erwan l'a reçue. Il était épaté, Erwan, parce que lui aussi l'aurait bien aimé voir des pingouins et les manchots. Quelle différence y a-t-il entre les deux d'ailleurs? Et puis les ours blancs, et puis les morses, qui sont des sortes d'otaries aux dents de sabre. Ça lui changerait des sardines. Il ne souffla mot de cette aventure à Henri, qui ne pourrait s'empêcher de comparer son esquif au navire d'exploitation du commandant Charcot et se ferait de la peine pour rien. Clairement, il ne lui arrivait pas la cheville. Maria, quant à elle, écoutait avec passion. Elle n'était pas rassurée quand elle voyait les étoiles dans les yeux de son homme, mais enfin, elle comprenait qu'il fût excité par le départ de son copain. Elle aussi, elle trouvait ça chouette, les pingouins. À cette époque, les femmes n'avaient pas d'opinion à donner sur les décisions, les projets ou les lubies des maris. Alors elle s'estimait déjà heureuse que le sien lui fût partager les images qui passaient au travers de sa tête et qui, parfois, restaient coincées dedans. Jour après jour, il lui parlait de plus en plus souvent du pôle Nord. Il s'inscrivit même à la bibliothèque du village. Il emprunta un atlas pour se renseigner, ainsi qu'un album consacré au voyage de Bougainville. Les régions parcourues dans ce périple n'avaient rien à voir avec le cercle polaire, mais Erwan n'avait rien d'autre à se mettre sous la dent, car il n'y avait pas un choix immense dans les rayons de cette petite institution. Il était déjà content d'avoir trouvé ça. L'hiver passa ainsi. Il espérait recevoir une nouvelle carte postale. En vain. Arriva le printemps, sans nouvelles d'Aristide. En mai, Erwan donna son vote au Front populaire. À Maria, le système électoral n'avait pas demandé son avis, mais elle l'avait exprimé quand même à son amoureux. Elle avait encouragé son choix. Elle se réjouit donc avec lui de l'avènement des jours heureux, tout en sachant que, bon, dans l'immédiat, leur vie ne changerait pas. Il se rendait à l'évidence. Maria était à la maison. Erwan bricolait avec Henri, qui lui donnait un petit billet sans que l'État n'en sût rien. Alors les augmentations de salaire, la limitation du temps de travail, c'était pour les autres. Ce n'était donc pas pour eux-mêmes qu'ils s'enthousiasmaient. Ils savaient désormais que la petite chose qui grandissait dans le ventre de Maria, qui deviendrait bientôt un enfant, connaîtrait un futur radieux. Une carte arriva. Elle avait été envoyée de Cherbourg, la veille. On était début juin, Aristide disait à son ami que le pourquoi pas faisait escale quelques jours avant de repartir pour le Groenland. Il profitait d'être à quai pour lire la presse qui rendait compte des accords signés à Matignon. Aristide écrivait « Tu comprends ? Ma Lulu, elle s'est démenée pour obtenir ça. Alors, elle est folle de joie. Elle les a bien méritées, ces deux semaines de vacances. L'usine ferme le 1er août, elle me réclame. Elle dit qu'elle veut voir Paris avec moi, je peux pas lui refuser un truc pareil. » Tous les détails qu'Aristide déployait dans le papier, du bout de sa plume d'écolier, avaient un seul objectif. persuader Erwan de prendre sa place sur le bateau, afin qu'il pût, lui, débarquer pour de bon et passer l'été à terre. Retrouver la Picardie et sa petite chérie, prendre la route en tandem, pédaler sur la Nationale 1 et visiter la capitale. Erwan avait déjà saisi l'idée avant de lire les dernières lignes. Il se comprenait à demi-mot, Aristide et lui. Alors, il annonça à Maria que c'était une chance qui ne se représenterait jamais, qu'il n'y aurait aucun souci pour le boulot, qu'il saurait faire l'affaire comme cuisinier, à bord, puisqu'il avait été commis d'épluchage à 15 ans, et que, grâce aux copains du Front Populaire, il verrait bientôt les manchots glisser sur le ventre le long des mers de glace. Maria pleura, évidemment, Erwan aussi. Ils firent l'amour comme si c'était la dernière fois, et c'était, justement, la dernière fois qu'ils le faisaient. Au matin, Erwan prit le train patate. Il changea à Saint-Paul-de-Léon, puis à Morlaix et Saint-Brieuc. Il passa à travers Dinan, Avranches, Coutances et Saint-Lô. À Cherbourg, il trouva son camarade comme convenu, au bistrot indiqué par celui-ci. « Va falloir la jouer fine, » expliqua Aristide. « Normalement, j'ai signé pour les accompagner jusqu'au bout de la campagne. On n'est pas censé laisser tomber en plein milieu. Mais si je les plante juste avant de lever l'ancre et que, du même coup, je leur te présente comme la perle rare, ils n'auront pas le choix. » Et ça s'est passé comme ça. Dans la nuit du 15 au 16 septembre, quittant le port de Reykjavik, le pourquoi pas passe le phare des Akranes, qui n'est pas celui de Seltjarnarnes. La confusion de l'un pour l'autre fut fatale, car la zone était dangereuse. Le navire fut projeté contre des récifs, les moteurs noyés et l'équipage n'eut pas le temps de sortir les voiles. Déjà, un nouveau choc brisa le mât d'avant, la chaudière explosait. Les corps portés par le ressac et déposés sur le rivage ne furent pas tous identifiables. Mais la liste des membres d'équipage était infaillible. Grâce à elle, on ne pouvait pas se tromper. On donna une identité à chacun des infortunés étendus sur la plage. Au même moment, au village, un petit Jean poussa son premier cri. Son oncle déclara aux autorités, parce que le père ne pouvait pas le faire, il était absent. On ne prit pas la peine d'expliquer au maire en quoi consistait la combine avec Aristide. Qu'Erwan fut perdu dans la mer d'Islande ou au large de Kerbrat, ça ne changeait pas grand-chose pour le petit orphelin et la jeune veuve. Aristide, lui, ne fut pas fâché d'être déclaré mort. Pendant ses vacances à Paris avec Lulu, il avait noué des amitiés et échafaudé des projets qu'il valait mieux ne pas ébruiter. Le hasard faisait donc bien les choses. Être mort, c'était pratique pour le genre d'activité auquel il se consacrerait désormais. Et puis, ayant péri lors d'une mission glorieuse, il eut droit à un hommage national à Notre-Dame de Paris, qui le fit bien rigoler parce qu'il était anarchiste. Il partit en Espagne avec Lulu et une poignée de camarades. Ils se battirent comme des braves pour défendre Barcelone et la liberté. On ne sait pas ce qu'ils devinrent ensuite, elle et lui. Peut-être qu'ils vécurent encore un peu, ne furent pas tués là-bas, retrouvèrent la France après la défaite. Peut-être qu'elle rejoignit les copains de l'usine ou qu'elle entra dans un maquis. Peut-être qu'il intégra, lui, l'armée de la France libre, avec d'autres anciens de Catalogne. Peut-être même qu'il revint à Paris avec eux, en août 44, pour libérer la ville. Puisque cet homme-là était déjà mort en mer d'Islande depuis longtemps, il n'avait plus de raison de recommencer. Il ne mourut donc plus jamais, il ne vieillit pas, il resta grand et brun, les épaules larges et le sourire blanc. On le rencontra encore partout, sur d'autres bateaux, d'autres barricades. On le trouva sur plusieurs continents des décennies plus tard. On tomba sur lui en 1980, sur la plage de Kerbrat, rendant service à un jeune homme, actionnant pour lui son appareil photo qui ne disposait pas de déclencheur automatique. On perdit sa trace à nouveau. On ne lui courut pas après, car on savait qu'il reparaîtrait. C'était « Marin absent », lu par Guilhem Lanternier. Extrait de « Les présents » d'Antonin Crène. Édité chez Publinet, collection Temps Réel. Marin Absent est disponible en podcast sur le site de Radio Campus, à la page du Marin Absent. Production La Compagnie Ensemble, sous la direction artistique de Coralie Tommy. Réalisation Élodie Hervier. Enregistrement Radio Campus Paris. Suite du feuilleton, demain, même lieu, même heure. La Compagnie Ensemble sera présente au Festival d'Avignon, du 2 au 7 juillet, à 18h40, dans la cour du Théâtre du Roi René. Elle présentera la pièce de conte Cosmogonie du monde, tout public, à partir de 6 ans.